Bonjour, bienvenue à la French Connection, épisode 76. Cette semaine, je suis avec Damien.
Salut tout le monde!
Avec Steve.
Bonjour à tous.
Et finalement, Patrick.
Hey, salut tout le monde.
Donc, commençons avec les Shameless Plug. Cette semaine, ça va être plus léger. On a 22-23 janvier, FIC à Lille, à laquelle je vais aller faire un podcast croisé avec nos limites sécu. Moi, j'ai de la poutine avec Damien et avec elle, on va s'amuser en sol européen.
Et on va essayer de sortir quelques sons un peu intéressants. Comme on avait fait, je crois, l'année dernière, j'ai repéré quelques populations interviewées pour avoir quelques idées, je pense, qui pourraient être très intéressantes sur la sécurité en 2019.
Tout à fait, ça sera fort intéressant. Et finalement, le 8 avril 2019 aussi, Québec Numérique présente le Secure. Et d'ailleurs, on commence à diffuser des premiers codes de rabais pour l'événement qui sont dissimulés dans plusieurs choses, dont deux vont être dissimulés dans le présent épisode. Un de 100%, donc un billet gratuit est dissimulé, plus un billet à 75% de rabais. Donc, cherchez bien, ils sont intéressants à chercher.
Party!
Faut avoir du plaisir.
Mm-hmm.
Donc, commençons avec les premières nouvelles. Damien, les gilets jaunes en France créent un peu de bruit.
Oui, il faut savoir qu'ici en France, depuis quelques semaines maintenant, il y a donc des manifestations dans les rues à Paris. Et la semaine dernière, alors en tout cas au moment où on enregistre, hein, donc ça veut dire le week-end du 8 décembre, des internautes se disant Anonymous ont décidé de se retrouver, de lancer une attaque, ou en tout cas lancer des attaques contre des sites du gouvernement, etc. Je vous avoue que moi, ce qui était autour des Anonymous, ça ne m'intéressait vraiment pas. C'était plutôt de savoir si véritablement on avait des cybermanifestants, en tout cas des gens qui avaient l'activisme, on va dire, numérique, hein, une façon de manifester, mais sans être obligé de tout péter, tout détruire ou encore diffuser des identités parce que tout le monde trouve ça totalement fun. Et donc, du coup, j'ai regardé ces gens. Je les ai suivis un petit peu sur les IRC, etc., etc. Et c'est avéré qu'à la fin, si on avait effectivement deux, trois, je vais être très clair et très honnête avec vous, manipulateurs, qui étaient clairement des anarchistes de canapé, hein, donc invitant toutes les populations pouvant venir sur ces lieux de discussion à attaquer sites de gouvernement, aussi des sites de commerce, hein, ou encore pétroliers, Total et compagnie. Même si je comprends l'idée de manifester, eh bien, ils étaient surtout là pour manifester leur envie que les autres attaquent pour eux. Et j'ai eu des preuves, hein, et plus que marquantes, c'est que sont apparus, au fur et à mesure du 8 décembre, eh bien, 3-4 internautes de pirates informatiques, très clairement, qu'on connaît, hein, qu'on croise de temps en temps sur les internets, qui sont ce que moi j'appelle des opportunistes des manifestations. Alors, deux, trois étaient brésiliens, il y avait un israélien, j'ai vu des turcs, et qui en fait sont apparus eh bien, comme neige en hiver. Voilà. Ils ont vu que ça manifestait, ils ont commencé à attaquer. Mais alors, des attaques qui ont duré quoi ? 3-4 minutes ? 5-10 minutes grand maximum. Et puis les gars sont partis. Alors, je les ai suivis un petit peu, je regardais ce qu'ils racontaient. Et en fait, on a vraiment des opportunistes du DDoS. Hein. Les gars ont attaqué la France, mais en même temps, ils attaquaient le Pérou. Ils lançaient des attaques sur le Venezuela. Deux jours avant, ils avaient attaqué le Vatican. Il y en a même un qui avait lancé des attaques contre la CIA. Bref, voilà. En regardant comment ça se passe, on montre facilement du doigt la Russie, les États-Unis. Non, non, hein, vous prenez 5-6 adolescents, vous leur donnez 2-3 choses dans les mains, et puis bah, ils font une manif.
La qualité comme attaque.
Mm-hmm. Ben, c'est la version virtuelle des agitateurs.
Ah, mais c'est clairement ça, sauf que dans ces petits groupes, j'en ai repéré deux qui, très clairement, vendaient du DDoS, qui vendaient soit des accès à des stressers, des booters, ou qui vendaient clairement pour 10, 15, 20, j'en ai même un qui proposait pour $40, eh bien, de lancer des attaques. Donc, je pense qu'on a aussi maintenant de plus en plus de marketeurs, hein, du black market, qui se sont spécialisés dans ce genre de choses, et qui profitent de la moindre manifestation ben, pour proposer leurs services. Alors, c'est dommage parce qu'ils vont clairement noyer ceux qui sont un peu honnêtes dans leurs envies de manifester aussi par le numérique, parce que ça peut être un espace qui permet de faire passer ces messages. Mais voilà, ces gens viennent vendre leur technique de piratin, hein, parce qu'on n'a vraiment aucun savoir-faire hein, pour faire ce genre de choses, et qui viennent pourrir un petit peu cette ambiance, et qui du coup peuvent faire quand même quelques dégâts, parce que bloquer des sites quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire plus, on n'imagine pas ce qui peut se passer derrière, hein, ne plus pouvoir envoyer de mails, ne plus pouvoir en recevoir. Donc manifester ça, franchement, je trouve ça tout à fait normal et même c'est même sain d'expliquer et de revendiquer des choses, mais se faire phagocyter par ces profiteurs, bah, c'est bien dommage, c'est bien dommage.
Ben, c'est une nouvelle façon de faire de l'argent. Tu parlais dans l'autre épisode, le déplacement tranquillement de la crypto-monnaie vers d'autres moyens de financement, puis clairement, cela est une plateforme très intéressante. Seul problème là-dedans, c'est que le manifestant dans le monde réel, ne crée pas des dommages du même que les manifestants dans le monde virtuel. Donc, il y a comme une non-égalité dans la manifestation.
Bon, là, je vais être honnête avec vous. Nous, on a eu pas mal de manifestations très dures, avec de la casse, des blessés. Voilà, il y a quand même certaines manifestations dans le physique qui ont été plutôt hard. Mais il y a un petit détail qui est loin d'être négligeable, c'est que ces manipulateurs là, qui incitent à manifester sous forme de DDoS et compagnie, ceux qui veulent participer et qui veulent utiliser leurs outils, ils ont oublié une chose, c'est que souvent, ces manipulateurs sont basés dans des pays où la législation ne va pas les embêter. Mais quand je suis un adolescent français, ou voire même des adultes français qui vont aller participer, eux, pour effacer leurs traces, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ne vont même pas peut-être y penser à effacer leurs traces. C'est du pénal hein, en France. Hein. Il faut savoir que c'est considéré comme un acte de piratage. Et donc, finir avec la police à 6h du matin et devant la justice parce qu'on a voulu manifester en croyant certains manipulateurs ou en utilisant certains outils d'attaque informatique. Voilà, je pense qu'aujourd'hui aussi, sur les internets, il faut réfléchir à, si on veut manifester, ok, mais faisons-le, il faut le faire d'une manière intelligente.
Ouais, ben, un espace, peut-être un espace à créer un état de manifestation légitime, moins illégal qu'on a actuellement, parce que ce qu'on en fait actuellement, c'est effectivement, comme tu dis, c'est illégal, puis dans beaucoup de législations à travers le monde. Donc, on est comme contraint à cet espace-là qu'on a permis dans nos espaces civils réels de laisser les gens manifester, puis là, on exclut le côté hard. Cet espace-là n'existe pas dans le virtuel. Puis les gens s'improvisent, ils font à peu près n'importe quoi, là.
Je vais finir par ça, le côté n'importe quoi, alors là je vais vous révéler quelque chose, c'est que pendant que je surveillais tous ces gens, est apparue une idée, mais c'était juste une idée de titre pour un article que je voulais écrire, où j'ai inventé le gang des Patrick. Parce que dans les gens que je voyais, ils ont deux des pseudo-pirates, ou en tout cas des participants, ont commencé à parler d'un film qui en France s'appelle « Camping », et je sais pas, il y a l'un des participants qui a commencé à troller et il commence à dire ben, « Vous attendez pas Patrick, les Français comprendront la vanne ». Et je me suis dit « Tiens, je vais appeler ce gang le gang des Patrick parce qu'eux étaient justement contre ces gens qui voulaient détruire pour manifester ». J'en écris un article et puis dedans je mets « Donc il y avait un gang des Patrick qui n'était pas content ». Pour vous montrer aussi un petit peu malheureusement l'intelligence de ces pseudo-pirates manipulateurs, c'est que, à première vue...
Il est populaire.
Bah oui, c'est ça. Alors, désolé Patrick, donc le vrai Patrick, hein, notre Patrick à nous, Patrick Mathieu, Québécois, travaillant aux États-Unis, qui, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, n'a strictement rien à voir avec tout ça. Et le pauvre a été cité dans un article, parce que nous sommes amis, il s'appelle Patrick, et là, les maîtres du complot ont vu en moi donc un sbire de l'État, et Patrick Mathieu est un manipulateur. À vous, enfin voilà, c'est pour vous dire à quel niveau les gens agissent. Donc voilà, je vous l'affirme là, maintenant, je vous le dis, le gang des Patrick, c'était juste un truc qui m'a fait marrer parce que je voyais des gens parler de Patrick dans le film Camping. Donc non, il n'existe pas. Non, Patrick Mathieu n'a pas participé à des cyber-manifestations contre les Anonymous. Et puis moi non plus, les gars. Nous, on a simplement regardé vos délires.
Nous, notre gros gang, c'est de la poutine pas mal.
C'est ça. Nous, on est juste capable éventuellement de vous donner une crise de foie à coup de poutine et à coup de bière. C'est tout ce que je peux vous dire.
Ouh. Et ben, on va profiter de ça pour justement changer de nouvelle sur le fait qu'il y a eu piratage d'une base de données du ministère de l'Europe.
Oui, alors ça s'est passé chez nous en France, là, il y a quelques jours, donc. C'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, à mon sens, a eu un problème de communication. Je m'explique. On reçoit plusieurs centaines, milliers de Français, on n'a pas vraiment le chiffre. On a reçu un mail, en tout cas moi je l'ai reçu, et qui nous explique, à la suite d'un piratage informatique, certaines de vos données personnelles confiées au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ont été dérobées. Il s'agit de votre nom, de votre prénom, de votre numéro de téléphone mobile, de votre adresse courriel. Et puis à la fin, on ne nous donne pas de lien. On nous dit, si vous avez des questions concernant cet incident, vous pouvez également nous contacter. Et là, on nous donne un mail. Alors, je vais être honnête avec vous, tu reçois ça, tu penses tout de suite à un phishing ou à une arnaque. Ils n'ont jamais eu l'idée de se dire, on va peut-être d'abord en parler sur notre site officiel et sur notre Twitter officiel, et après on envoie un mail. Énormément de gens, pendant une heure et demie, se sont dit, oh, ça c'est du phishing, c'est un piège, on ne va pas répondre, on ne va pas y croire. Ça, c'était pour la communication. Mais par contre, effectivement, le ministère a annoncé que, alors, sa base de données Ariane, rapidement, Ariane, c'est quoi ? C'est un excellent outil qui permet, quand je pars à l'étranger, par exemple, eh bien, de donner des coordonnées de ma famille pour être eh bien, informé si jamais il m'arrivait un problème. Un exemple, trop de Poutine à Québec. Eh bien, du coup, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères peut contacter donc ma famille. Eh bien, c'est cette base de données-là qui a été, en tout cas, on va dire, selon ce qu'on a lu, piraté. Mais alors, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui. Toujours est-il que, voilà, il y a très certainement eu un quick-quick, pour ceux qui aiment le fromage du même nom, mais toujours est-il que la communication a été un petit peu bancale.
Jeu de mots. Donc, oui, j'étais en apporté du fromage quick-quick et oui, c'est effectivement une belle référence à ton patrimoine.
Pour ceux qui ne connaissent pas le fromage quick quick, c'est un espèce de fromage où quand vous le mettez sous la dent, ça fait quick quick quick. Et je l'imite bien le fromage quand même.
C'est pas mal ça, pas mal, pas mal.
C'est assez bon, oui. Puis finalement, là, ta troisième nouvelle, c'est trois Espagnols administrateurs néo-nazis.
Oui, alors ça s'est passé il y a quelques jours. Et en gros, c'est l'un des plus gros sites néo-nazis du monde. Très clairement, qui est dans le collimateur d'Interpol, d'Europol et de plusieurs polices du monde. Et trois de ces administrateurs ont été arrêtés. Alors, il faut savoir que ces trois administrateurs qui s'occupaient de la branche espagnole de ce site néo-nazi qui compte un peu plus de 50 000 abonnés. Et donc, eh bien, Europol, Interpol, plus la police espagnole et la police suisse ont arrêté donc, ces trois personnes à Barcelone, Tarragone et à Saragosse. C'est intéressant de voir qu'on parle souvent des autorités s'occupant de sites divers et variés, mais on n'en parle pas trop de ces sites néo-nazis avec des propos et de relents négationnistes des plus déplorables, soyons très clairs. Ben, ça prouve aussi que les autorités sont capables de les remonter. Le site en lui-même n'est pas arrêté. Hein, c'est trois de ses membres. C'est intéressant de voir que ça enquête de partout et que tous ces gens qui pensent être, en tout cas, cachés, dans le dark web, le dark net, hein, vous savez, ce truc qui fait peur mais qui ne devrait pas. Voilà, quand les autorités s'y mettent, on voit que ça peut frapper partout et fort. Mais je le répète, le dark web, le dark net, ce n'est pas dangereux.
Mais ça, effectivement, c'est très important que les gens sachent qu'effectivement, on n'est pas si anonyme que ça sur Internet et même dans le dark web. Donc, c'est quand même important que ça circule puis que ça devienne un effet dissuasif aux gens pour qu'ils arrêtent de croire que puis d'agir en toute impunité dans ces environnements-là.
Et surtout, ces environnements-là, on oublie, sont particulièrement nombreux à créer du fake news, de la fausse information, que tout le monde, plus petit comme les plus grands, vont répercuter. Et donc, du coup, malheureusement, ces gens sont prêts à tout et à n'importe quoi pour diffuser leur propagande ou en tout cas leur vision du monde qui est quand même déplorable à mon sens et qui fait quand même très peur quand on voit ce qu'ils peuvent diffuser. Donc les autorités ont frappé un grand coup sur ce cas-là, mais il y en a encore beaucoup d'autres.
Hein. Ouais, mais j'ai hâte de voir si les personnes qui ont arrêté vont parler et peut-être obtenir d'autres informations sur d'autres personnes ou toujours le concept qui existe, là, qui vont devenir soit des taupes ou un moyen de rentrer dans le forum et autres. Il y a eu beaucoup de ça utilisé avec le FBI et les réseaux de carte de crédit qui vont utiliser quelqu'un pour entrer dedans. On l'a vu avec LOL sec et whatever.
Mais yes.
À voir si ça va arriver encore.
C'est bien, Damien, de parler le micro fermé.
Vous donc voilà,
juste suivi une parole.
C'est facile de se moquer. Non, comme je disais, c'était mes dernières actualités de 2018. Et en 2019, j'espère qu'il y en aura encore autant, parce que cette année, on a été franchement gâtés.
Non, on sait ce qui s'est passé cette année. On est rendu sécuritaire. Plus de nouvelles l'année prochaine, c'est bien.
On sera tous sauvés.
Comme ça chaque année de toute façon. Mais de toute façon, pour nos auditeurs, on va faire un épisode récap de 2018 sur lequel on va parler des moments forts ou peut-être moins forts de 2018 en sécurité.
Ça va être un podcast de 6 heures. On vous prévient tout de suite.
Ah, ça se peut être pas si long que le podcast qui a eu lieu au Hackfest.
Oh, je suis sûr qu'avec un petit peu de poutine et un petit peu de bière, on va être capable de tenir la nuit.
Beaucoup.
On va être bon à couper, en tout cas.
Passons à la nouvelle suivante. Cette semaine, le René a fait les manchettes. Moi, je vais m'exclure de la conversation parce que je suis en conflit d'intérêt. Je vais laisser Patrick en discuter.
Yes, en fait, je ne vais pas faire un gros cas avec celle-là. On va sûrement en reparler dans les prochains épisodes et autres. Mais c'est un cas de plus au gouvernement du Québec qui projet de sécurité, de communication et autres, dont le René, les communications pour la SQ et plusieurs autres entités. Projet qui a englouti près de 1 milliard et ce n'est pas livré encore. Donc, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de journalistes focusés sur le fait que les projets ne se réalisent pas, se réalisent trop cher ou manque de sécurité, choses comme ça. Donc, c'est comme pas une tendance, mais on commence à se réveiller puis beaucoup de monde commence à parler. Donc, lisez l'article. L'article est très grand. Beaucoup de détails dedans. C'est un peu plate le résultat qu'on voit le cash qui a été flambé là puis que le projet n'est pas réalisé. Mais comme je dis, il risque d'avoir sûrement des suites à tout ça qu'on va entendre parler. Donc, je pense qu'on pourra faire un suivi sur ça dans les prochaines semaines. Yes, Steve?
Ce qui est dommage là-dedans, c'était le remplacement des moyens de communication. Justement, c'était d'amener une plateforme unifiée et éviter la cacophonie, en tout cas d'intervention multidisciplinaire. Autrement dit, sur un site d'incident, mettons qu'on prend la polytechnique, ambulanciers, pompiers et policiers pourraient se parler sur les mêmes fréquences, puis à ce moment-là, sauver du temps incroyablement. Et on existe avec les autres services publics. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce que là, on est, on le disait tout à l'heure, 10 ans plus tard.
Oui, à peu près 10 ans. Puis, tu sais, dans les gros problèmes qu'il y a eu, ils ont acheté de l'équipement au début parce qu'il était vraiment pas cher. Et aujourd'hui, 10-15 ans plus tard, l'équipement n'est plus supporté, ne fonctionne plus. Puis quand tu es dans un building en ciment, le réseau pogne simplement pas. Donc, ils sont obligés de remplacer ça. Ils ont acheté pour 500 quelques millions d'équipements comme ça. Donc, tu sais, si c'était pas de cette mauvaise gestion d'équipement-là, le projet serait sûrement dans les frais normaux. Mais la gestion est à discuter, là, mais je veux dire, il y a eu des décisions qui ont pris le mauvais champ, disons.
C'est comique. Hein? Aux États-Unis, il y a beaucoup de services de police qui l'ont fait, cette transition-là, puis qui ont unifié complètement. Ils ont même mis ça en IP partout.
Ça n'a pas pris 10 ans, ça a pris un an ou deux.
Ben oui.
C'est ça, la différence.
On est distinct avec une fonction comme ça. Là. Ça m'étonne.
L'hiver, tu sais, nos buildings sont tellement mieux construits. Comme nos routes.
C'est à cause de l'amiante.
mais je te laisse continuer là-dessus, Steve.
Continue.
Ah, t'es trop gentil.
Bon, on va changer de sujet. On va embarquer dans les différentes nouvelles de Steve qui sont quand même assez imposantes cette semaine. Puis je crois que la première, c'est un retour sur Supermicro et avec le fameux bug qui a fait peur à beaucoup de gens.
Oui, exactement. Et ça, c'est sous la révélation du guichet d'information, du guichet de nouvelles Bloomberg, et qui ont rapporté en avant-plan comme quoi que il y avait une puce qui était cachée sur les cartes maîtresses de serveurs que Supermicro vendait à des consortiums, pas moins comme exemple Amazon, des plateformes, on parle pour les data centers. Et Apple et Amazon ont clairement dit après inspection, non, nous autres, on n'a rien de caché sur nos pièces. Et ils ont procédé Supermicro à une vérification indépendante. Et ça a révélé que cette vérification-là comme attendu, il n'y avait pas de puce présente, en tout cas de puce mystère, en dehors du design de Supermicro. Ce qui laisse encore une fois la place à Supermicro, c'est-à-dire Bloomberg, qui n'a toujours pas révélé ses sources, ces fameuses sources anonymes qui ont révélé cette controverse. Et c'est juste surprenant, encore une fois, qu'une grosse nouvelle, c'est quand même très important. Supermicro, elle a quand même mangé une claque sur, sur la bourse. Mais en même temps, ça l'a quand même, je suis content que ça se soit produit parce que ça l'a amené des vérifications supplémentaires parce que le concept est toujours possible. Et c'est de cette façon-là qu'il faut protéger la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de production, comme on l'appelle, sans quoi ça vient à ce moment-là faillible d'avoir des systèmes qui ne seront pas à la hauteur des attentes.
Mais un des points par rapport à ça, tu sais, même si la vérification externe a été correcte et tout, puis qu'ils n'ont rien trouvé dans leur production, c'est comme tu viens de dire, c'est la chaîne. C'est pas parce que eux, leur processus, leur plan, il n'y a rien de méchant dedans, qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui est assis et qui a mis la puce dans le montage. Là, évidemment, quand ça a sorti dans les nouvelles, là, si c'est, admettons que c'est une personne ou un groupe, ben, ils ont changé d'attitude ou de technique ou ils ont arrêté simplement, ils ne sont pas fous. Là.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que personne ne s'est dit que c'était peut-être une fausse information juste pour jouer avec le cours de la bourse.
Oui, ça a été invoqué.
Ça peut être super efficace. Hein. On réussit à infiltrer une agence de presse mondialement connue. On lui place deux, trois sources diverses et variées. Et puis, le tour est presque joué. Tout est possible, malheureusement, aujourd'hui.
Hein. Tout à fait, tout à fait.
Et c'est pas rare, parce que comme tu dis, Patrick, là, je vais renchérir ce que tu amènes. Le NSA l'a fait souvent avec des pièces de matériel de réseau qui étaient livrées vers des organisations. Et je veux dire,
ça. Ah oui, mais il y a même des photos du processus de la manière qu'ils l'ont fait. C'était au début 2000, fin 90. Là.
Avec les rubans originaux des compagnies qui envoyaient, etc.
Oui, exact. Mais ils interceptaient ça direct dans la poste. C'est aussi ça, c'était ça.
Fait que c'est pas juste les Chinois qui peuvent s'adonner à ça, encore une fois. Là.
Mais c'est intéressant malgré tout que ça a été dans l'espace public qu'on en parle, même si, somme toute, ça c'est limite fake news que ce que Bloomberg a cité. Ça a quand même ramené, puis ça a obligé des experts de chaînes de provisionnement d'expliquer dans des articles le fonctionnement et l'énorme complexité de faire ce qui a été dit dans ce cas spécifique-là. Et c'est très intéressant parce que, un, ça vient démonter un mythe, mais en même temps, ça vient de montrer que c'est quand même malgré tout possible. Fait qu'on est, c'est intéressant, puis ça va cheminer dans la tête des hauts gestionnaires des différentes grandes compagnies pour justement arriver au fait que maintenant, on va traiter les chaînes d'approvisionnement avec tout le sérieux qu'on doit le faire aussi.
Exactement, appliquer la sécurité de bout en bout et non pas juste à l'application à la fin.
Tout à fait. Et passons à ta seconde nouvelle qui est... Les Chinois?
Et ils ont été présents, les Chinois, dans ma vie cette semaine, je veux dire, plus qu'à mon tour. Dans une autre évidence qui est arrivée par la nouvelle du Wall Street Journal, citant encore les Chinois qui s'en prennent, je peux juste qualifier ça du maillon faible de la sécurité de l'information. C'est-à-dire, si on s'en prend au ministère de la Défense, peu importe de quel pays, la culture de ce ministère, de cette organisation-là, va faire en sorte que ça va être très difficile d'aller à chercher l'information. Donc, qui en est le moyen faible, à part le personnel lui-même, bien, ce sont les contractuels. Et encore une fois, il y a un contractuel de la défense américaine qui s'est fait prendre à avoir des procédures faibles, pour ne pas dire inexistantes, et qui, après ça, a donné lieu à ce que certains espions chinois, sûrement l'unité 6138, se sont infiltrés et ont pris acquisition de matériel classifié, de matériel sur des systèmes de défense sur la marine américaine, encore une fois. Ça va encore dans la capacité que les gens ne prennent pas au sérieux, aussi loin que ça devrait être, la sécurité de ces systèmes-là, peu importe où ce que c'est. Parce que souvent, quand que les gens ne voient pas le barbelé autour d'eux, ils ne croient pas que la menace, elle est omniprésente. Et malheureusement, dans le cyberespace, on n'a pas besoin de barbeler, la menace, elle est toujours omniprésente et va venir nous faire un petit coucou de temps en temps.
Ouais, le barbelé est assez virtuel dans ces circonstances-là. Puis, dans le cas de l'armée américaine au sens très, très large, dans ce cas-ci, les consultants ou les contractors qui appellent ont été mis à mal à plusieurs égards, puis c'est un cas qui se répète régulièrement dans lequel c'est la voie facile pour réussir à aller chercher de l'information sensible dans l'armée à travers un tiers qui a accès à cette dite information-là.
C'est pas la première fois, puis je veux dire, c'est sur tout le... Comment est-ce qu'on dirait donc? Depuis quand l'information, elle est informatisée au gouvernement américain? Je veux dire, ça fait de très longtemps, on parle depuis 20 ans et plus. Et on se retrouve encore devant des situations similaires. Moi, ça me surprend. Sérieux, là. Je suis juste surpris qu'il y en a qui ne font pas le suivi approprié pour être capable de sécuriser davantage l'information.
Ben, c'est encore un peu un problème de chaîne d'approvisionnement parce qu'un contracteur est un fournisseur donc comme les autres. Donc, on est encore dans un contexte. Puis je pensais que le gouvernement américain avait réglé ce problème-là dans les contrats dans lesquels il était supposé ajouter des clauses qui étaient très spécifiques à la cybersécurité, justement pour s'éviter des cafouillages de cette nature-là. Mais de toute apparence, je pense que les firmes de consultants s'en lavent les mains pour rester dans les termes polis dans ce contexte-là.
Oui, mais je croirais surtout qu'ils l'appliquent. Il s'agit encore une fois d'une seule personne avec une seule mauvaise intention. Ou encore là, une naïveté de croire « Ah, ben j'ai une clé USB. On m'a donné ça l'autre jour quand je suis allé à l'exposition, au séminaire, à la conférence XYZ, et on m'a dit que c'était les documents de la conférence, puis évidemment, c'était ciblé parce que donc, ça fait partie des données de rentrée dans les organisations.
Donc, le document de formation, le vidéo de formation qu'il devrait donner à tout le monde pour rentrer ça devrait être Monsieur Robot pour qu'il montre et qu'il voit et de façon effective comment on procède pour de vrai et comment ça se fait pour de vrai. Je pense que c'est une excellente vidéo de formation qu'on devrait donner à tout le monde.
Les quatre saisons back-to-back, là, sans arrêt, let's go, assoyez-vous, puis mettez-vous des curants dans les yeux, vous regardez ça, puis après ça, il y a un examen à la fin, vous faillez l'examen, vous recommencez. Je fais pour ça, certain.
C'est excellent. Passons à la nouvelle suivante. Tu as un malware qui fait qui réémerge du franglais.
Il fait un retour. Version 3 du verre informatique Shamoon. C'est un verre informatique qui a fait son apparition et qui a été rendu célèbre après que ce soit attaqué à la pétrolière Saudi Aramco en Arabie Saoudite, le plus gros producteur de pétrole là-bas, qui a détruit pas moins de 35 000 disques durs sur des PC. Quand je dis détruit, c'est vraiment wipé des disques durs complètement. Puis ça a été intéressant comme suivi, où ce que cet incident-là a fait en sorte que ça a créé une carence mondiale de disques durs, parce que les autres, l'argent leur sort par les oreilles, ils ont été allés faire une commande et rafler tous les inventaires de disques durs partout. Pendant un certain temps, là, il y avait eu une carence de disques durs conventionnels. Ce qui amène la version 3, ce qui est fatigant de ce virus-là, c'est qu'il s'en prend aux infrastructures essentielles de la production énergétique. Dans ce cas-ci, on parle pétrolifère. Et c'est maintenant un consortium italien auquel que ça lui est arrivé dans toutes ses installations. Cependant, c'est seulement 300 serveurs qui ont été seulement. 300 serveurs, pareil, de cette compagnie-là qui ont été affectés au Moyen-Orient, en Inde, en Écosse et en Italie, qui a résulté à ce moment-là à ce qu'ils puissent refaire, évidemment, le procédure de récupération et de remise en fonction de le système. Quand on s'attaque, je veux dire, à des infrastructures essentielles telles que la production énergétique, là, je veux dire, c'est pas des petites situations parce que ça peut engendrer encore là, quand on parlait tantôt, Damien, justement, de variations sur la bourse, ça peut peut-être même influencer le montant du prix de baril de pétrole par rapport à sa disponibilité suite à un incident similaire. Et c'est tous nous autres qui vont en récolter, encore une fois, parce qu'on sait très bien, à la pompe, ça prend des fois là, des raisons loufoques. Ça en est une raison qui serait réelle pour qu'ils puissent se donner la légitimité de remonter le prix de l'essence, encore une fois.
Mais d'après vous, qui peut être derrière? Parce qu'on parle de la Chine, on parle de la Russie, mais on parle peu de l'Iran.
Voilà, c'est l'Iran qui est derrière ces virus-là, ça a été confirmé, parce qu'ils ont une influence évidemment sur le Moyen-Orient. Ils veulent bien que l'Arabie Saoudite, eux autres, ils seraient net sec à terre et l'Iran deviendrait à ce moment-là le producteur principal pour ce coin du monde-là.
Tiens, en parlant de l'Iran, c'est une société britannique, il y a quelques jours, si je me souviens bien, c'est la société Certfa qui a parlé d'un groupe de pirates qui s'appelle Charming Kitten, qui aurait lancé aussi, qui aurait lancé aussi une attaque, alors cette fois-ci de spear phishing. Et en fait, ils ont découvert l'attaque. Pourquoi? Parce que les pirates auraient oublié de fermer l'un de leurs serveurs. Ils se sont attaqués à plusieurs administrations américaines. À première vue, c'était pour leur taper sur les doigts suite aux décisions que Washington avait pu prendre justement sur le nucléaire.
Oui, mais de toute façon, tant qu'à parler de l'Iran, il y aurait un gang de l'Iran qui serait en chasse.
Ah, mais je vais être très clair avec vous. Hein. En Iran, j'ai moi en main, c'est une façon de parler, j'ai réussi à intégrer deux forums où les gars, j'ai pas l'impression qu'ils soient techniquement très très forts, mais par contre, ils sont très très motivés. Et ça diffuse de la faille, ça diffuse des cibles. Alors, pour le moment, moi, j'ai l'impression que c'est des étudiants. Rien n'empêche de penser, bien sûr, que dedans, l'étatique et le religieux, qui a un énorme pas, hein, c'est assez impressionnant à voir et à lire, et surtout à traduire, parce que je ne comprends pas tout. Mais oui, ils ont en tout cas, à première vue, de la motivation et de jeunes populations prêtes à en découdre sur le web, hein, ça c'est sûr.
Et c'est un point important, c'est Charming Kitten, en fait, juste pour reprendre la prononciation, que là, j'essaie de trouver comment c'est
écrit. Je vais mettre le lien officiel, là, c'est le CERT FK.
Oui,
le blog. Et super intéressant, allez lire ça. Ça montre toutes les attaques qui bypassent les deuxièmes facteurs d'authentification et autres. Ce qui est cool, c'est que c'est pas mal ça, ma job ces temps-ci. Là, fait que ça me rejoint pas mal, mais ça, c'est au niveau state-sponsored. Donc, c'est vraiment dans le wild que le monde font vraiment de la bypass de 2FA pour faire du spear phishing. Ce qui est assez incroyable parce que dans les pentests réguliers ou dans les petites attaques bidons, on n'en voit pas de ça. Là.
C'est quand même solide. Mais le lien que je voulais faire, c'est que Steve avait une nouvelle avec le fait que l'Iran est à la chasse aux concepteurs de Nuke.
Oui, ils s'en prennent tout simplement aux développeurs, tous les scientifiques du monde là, qui, encore une fois, ça on peut faire facilement aussi le lien avec l'histoire de Huawei, de Mme Ming qui s'est fait arrêter à Vancouver parce que ça relève d'une situation où elle a vendu du matériel prohibé selon un embargo américain. On parle de pièces électroniques, de routeurs switch, etc., pour créer un système informatique quand même performant, un réseau. HP, vendu en 2012 sous Skycom. Skycom est une compagnie subordonnée à Huawei, dont Mme Ming faisait partie du conseil d'administration. 6 ans plus tard, c'est là que ça amenait à son arrestation et est sur le point d'être déporté aux États-Unis. Tout ça pour dire que, justement, l'Iran est encore une fois isolé de par tout bord, tout côté, mais ils veulent pareil s'assurer de garder une certaine force d'influence dans le Moyen-Orient. Parce que, je veux dire, l'ennemi premier de l'Iran, ça demeure toujours l'Israël. Les Américains ne sont pas loin en arrière, évidemment, mais il reste toujours bien qu'ils ont tout à perdre, c'est-à-dire ils ont tout à gagner parce que tout est sous la table. Et il faut qu'ils renouvellent aussi le côté scientifique, parce qu'il y a eu quand même quelques-uns qui ont disparu, des chercheurs de pointe, avec le temps, et il faut qu'ils recyclent ce savoir et pour être en mesure d'aller chercher encore là un avantage qui va les permettre si on peut dire, respectés dans le Moyen-Orient, parce que sinon, c'est certain, il y en a d'autres qui attendent pour les remplacer sur le marché.
Oui, et... Passons à la nouvelle suivante, le Seed Worm, qui est quand même un groupe de cyberespionnage, quand même des techniques nouvelles.
Et que, pour dire aussi que ça ne se promène pas juste au Moyen-Orient, je veux dire, l'Amérique du Sud n'y échappe pas. C'est des genres d'intrusion et d'exploitation d'informations. Dans ce cas-ci, c'est sur des ordinateurs du gouvernement brésilien, d'une ambassade, et qui a utilisé, c'est le groupe de APT-28 qui est à l'arrière de cette incursion-là. Et toujours, lorsqu'il y a des incursions dans les environnements diplomatiques, ça veut dire qu'ils sont intéressés, donc, pas juste savoir qui parle avec qui, mais bien des relations stratégiques. Et APT-28, là, je veux dire, c'est le cyberespionnage par le ministère russe, souvent, qui est à l'arrière de ça. Ces groupes-là, je veux dire, on le voit à travers le temps, ça se propage, c'est les compagnies, encore une fois, dans ce cas-ci, c'est FireEye, si mon souvenir est bon, qui avait attribué cette identité-là à ce groupe de hackers qui, eux, à ce moment, vont miner vraiment l'information à partir d'environnements, je voudrais dire, politiques, pour être en mesure de déterminer beaucoup d'informations à caractère pour les stratégies, donc de stratégie. Quand on dit ça, ça veut dire qu'ils sont en mesure, de, un peu comme les Chinois ont fait envers le Dalai Lama, pour être en mesure d'aller comprendre un peu les intentions, où ce qui s'en va, qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains mois, les prochaines années. C'est de cette façon-là, aujourd'hui, qu'ils peuvent aller se prémunir. Au lieu d'envoyer des agents physiques sur place, ils vont prendre des moyens informatiques pour être capables de s'approprier de cette information-là.
On ne parle pas beaucoup de l'Amérique du Sud, mais ils ont de sacrés nids de pirates informatiques. Au moment où je vous parle, la Banque du Bahamas vient de se prendre quand même 48 heures de DDoS lancées par de jeunes pirates. On a eu aussi la préfecture de São João et de Rio Grande au Brésil, qui s'est retrouvée avec ses bases de données des municipalités en fuite. On n'y parle pas beaucoup hein, de ces jeunes ou moins jeunes pirates d'Amérique du Sud. Mais il ne faut clairement pas les oublier parce qu'eux ont besoin d'argent et ils sont prêts à accepter n'importe quel contrat.
Pareil comme les anciens pays du Bloc de l'Est, c'est souvent le déterminant qui fait en sorte qu'on retrouve souvent le nom de la Russie en avant-plan, le nom de tous ces pays baltiques. L'Ukraine aussi est toujours dans l'avant-plan là-dedans. Et il y a un autre joueur qui s'en vient progressivement sur dans le même genre d'idée, Damien, ça va être le Vietnam qui a lancé son nouveau téléphone cellulaire. Et dans le Vietnam, j'ai pu voir de mes yeux en Haïti, ils installent l'infrastructure. Je veux dire, il n'y a pas juste Huawei, Ericsson, Nokia. Ils se mettent présentement sur la carte avec une certaine technologie. OK, c'est à base de chinoise peut-être, mais ça va être marqué Made in Vietnam maintenant. Là, ça va être intéressant à suivre.
Tout à fait. Et méfiez-vous du gang des Patrick.
C'est les pires. Mais pour faire un lien avec Huawei et le 5G, on a certains risques au niveau canadien. Puis étant faisant une mention au niveau de l'arrestation, mais je pense que c'est un peu plus large que ça.
C'est très large et ça a occupé vraiment ma semaine, depuis les deux dernières semaines même, je devrais dire. L'idée, encore une fois, c'est qu'il y a une opposition à l'idéologie politique qu'on devrait toujours garder les bonnes relations entre la Chine et le Canada, ça c'est certain, mais là, le Canada est un... Comme on dit en anglais, Canada is between a rock and a hard place. Autrement dit, on est entre l'écorce et l'arbre dans l'arrestation de Mme May. Ce qui nous amène au problème technologique, quand on dit un problème, c'est que présentement, la discussion tourne alentour du fait que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et même le Japon ont dit non à la technologie 5G parrainée par le Japon. Excusez, par la Chine. Je me reprends la Chine. 2020 est l'année qui cible pour être capable de déployer ça partout dans le monde. L'avantage, évidemment, d'avoir du 5G, c'est l'évolution technologique. C'est une vitesse de transfert de 50 à 100 fois plus rapide que ce qu'on a présentement en 4G LTE. Et ça se voudra d'être le réseau des réseaux, encore là, basé sans fil, pour relier n'importe quoi qui transige dans le public. Le pourquoi du Canada qui devrait s'en retirer, mais avec le temps, la Chine a toujours été prouvée comme étant non fiable pour livrer ce qu'ils, encore là, promettent de dire qu'ils ne feront pas. C'est-à-dire, ils promettent toujours de ne pas s'attaquer au vol de propriété intellectuelle, alors que ça a toujours été pris. Quand on dit que ça a été pris, on peut ramener ça à l'histoire qu'on a eue avec Norton, qui a donné lieu à sa belle fin. On peut donner suite aussi vol de propriété intellectuelle avec le CNRC. Alors, donc, c'est dans ces des contextes comme ça où il y a eu plutôt une entente avec la Chine et le Canada il y a 2 ans de cesser toute opération offensive de vol d'information. Et ce qui donne lieu à ce moment-là, c'est que la Chine, on s'attend à ce qu'ils respectent le parole, mais de toute évidence, l'histoire nous a démontré que non. Donc, tous les trois anciens directeurs du SCRS, dont l'actuel, M. Vigneault, ont clairement statué comme quoi que le Canada ne devrait pas s'embarquer. Maintenant, il n'y a qu'un pouvoir de recommandation et, après coup, reste au pouvoir politique de pouvoir en décider. Donc, le CST, à ce moment-là, qui était Scott Jones, qui est maintenant le directeur du Centre de cybersécurité du Canada, ont fait des évaluations techniques et eux ont déclaré qu'ils n'ont pas trouvé de backdoor par rapport à ça. Ils n'ont pas trouvé de trucs comme rapportés et anticipés par vous, par moi, par tout le monde, disant que la Chine pourrait profiter d'une faille ou plutôt de backdoor dans les systèmes et être capable d'exploiter l'information en tout lieu, en tout temps, comme bon le sent. Mais il reste pareil que lorsqu'on installe un système et que le fabricant a accès de l'appareil d'exploitation jusqu'à l'infrastructure, il y a toujours bien pleine connaissance de toutes les composantes dans tout l'écosystème, si on peut appeler ça comme ça.
Il n'y avait pas aussi le fait que la compagnie, il faut que tu utilises leur hardware. Y avait-tu un concept de ça un peu?
Pas mon souvenir. Ben, le hardware, c'est unifié. Tu as raison là-dessus, Patrick. C'est unifié dans le sens que switch, routeur, antenne, c'est un package, comme on dit. Là. Tu ne peux pas avoir une seule composante d'un ou de l'autre. Le téléphone, par contre, ça c'est une autre histoire. Il y a déjà des téléphones Huawei qui circulent partout. Ça, c'est vrai. Mais dans l'infrastructure, là-dessus, c'est vraiment un tout pour tout.
Mais ce point-là est dans l'ensemble très complexe. Puis un peu comme on avait avec Supermicro, cette espèce d'infiltration-là, dans lequel on nous fait peur de style sci-fi, ils vont contrôler les antennes, votre méchant ça. Puis j'ai même l'impression à ce point-là qu'on est en train de nous faire regarder à gauche quand quelque chose se passe à droite, puis on est en train de se faire voler notre portefeuille sans s'en rendre compte.
Là-dessus, c'est pas fou comme appréciation, c'est vrai. Mais je vais vous transférer, messieurs. Il y a eu d'ailleurs cette semaine, au grand reportage à Radio-Canada, la rediffusion d'un documentaire qui s'appelle « La Chine, le dragon à 1000 têtes ». Et c'est un documentaire qui explique comment est-ce que la Chine a comblé son déficit industriel et de recherche et développement par l'espionnage industriel, dont la fameuse unité 61398, qui est sa spécialité, elle, de s'infiltrer dans les réseaux informatiques et après ça, envoler la propriété intellectuelle. Je vais vous transférer ça sur le chat. Mais tout ça, ça dit dans le fond parce que présentement, la Chine a une grande capacité cyber, est capable d'aller faire quoi que ce soit, quand ils veulent, où qu'ils veulent. C'est là que moi, il manque un élément pour certifier qu'est-ce que je veux dire par rapport à la position de la Chine là-dessus, mais toujours bien qu'ils ont cet avantage présentement.
Même au-delà du fait qu'une capacité cyber qui est de toute apparence supérieure à bien des gens, je crois qu'en tant qu'occidentaux, notre problème principal, c'est qu'on sous-estime la capacité réelle de la Chine et même au-delà du cyber, c'est un peuple très brillant qui nous a toujours montré à quel point ils downplayent beaucoup leur intelligence, leur capacité, et ce qui nous fait souvent croire qu'on est meilleur qu'eux. Et dès lors, dès qu'on croit qu'on est meilleur qu'eux, on vient de perdre la game parce que ils ont toute capacité de nous faire avaler à peu près n'importe quoi après. Donc, cette façon-là, un peu gamine de regarder les relations internationales, et joue contre nous en tant qu'Occidentaux en général. Et les relations géopolitiques est beaucoup plus complexe et beaucoup plus raffinée qu'on aimerait bien le voir et que ce qui nous est transmis à l'heure actuelle par nos médias, c'est ça. C'est là.
Prends en compte tout le concept de l'immobilier, des achats qu'ils font dans tous les pays qui possèdent la moitié de Montréal, Toronto, Boston, New York et autres. Tu sais. Le dragon à 1000 pattes, ça en est une. Il y en a sur tous les points qui transigent, autant politique que monétaire et la bourse, whatever ce qu'on veut.
Et qui ont commencé là-dessus, parce que quand il y a eu les détournements de BGP récemment, c'est là que ça a été illustré davantage, parce qu'il y avait beaucoup d'ISP aux États-Unis qui sont Chinese-owned, autrement dit propriété de compagnies chinoises, et c'est là qu'ils ont commencé à faire de l'injection de route et faire rediriger le trafic. Là, on parlait une première fois de 15% du trafic Internet qui avait été déjà redirigé et d'autres situations qu'on pourrait jaser, même qu'on a couvert, je crois, dans d'autres podcasts. Mais c'est ça que ça démontre, justement, puis c'est ce que je voulais rajouter, Patrick, là, c'est que la Chine, lorsqu'elle travaille un plan, une idée, c'est sûr, plusieurs années. Ce n'est pas un plan immédiat où un claquement de doigts et ça se produit. C'est vraiment dans un avenir lointain, vraiment à moyenne et longue portée. Ça peut prendre peut-être 100 ans des fois d'accomplir ce qu'ils veulent faire, mais ils sont très patients. Puis ça, c'est à date encore une fois.
Ça, c'est 100% inverse de notre mentalité. Nous, on voit demain, on fait une attaque sur ce point-là, ça explose, on s'en va. On va installer du monde là, on va acheter ça, puis dans 20 ans, on verra.
Ouais. Les Chinois sont un vieux peuple qui sont habitués de réfléchir sur des... même jusqu'à des millénaires dans certains cas, mais au moins, ils sont capables de réfléchir sur un horizon de 100 ans. Et la patience finit par avoir raison de tout.
On peut proposer à nos auditeurs de relire L'art de la guerre de Sun Tzu.
Aussi.
C'est fondamental. Ouais, tu peux-tu le dire, le titre de ton livre?
C'est un vieux livre des années 90 qui s'appelle The Coming War, The Coming Conflict with China. On ne parle même pas de technologie encore dans ce livre-là, je veux dire, au moment où ça a été écrit, mais ça décrit très bien la philosophie qu'on s'échange présentement sur comment est-ce que la Chine va s'y prendre, surtout envers l'Occident. Oui, il y a une bataille réelle. C'est vraiment une bataille de dominance. Et oui, il reste présentement, encore une fois, les Américains qui s'interposent. Les Russes aussi ont commencé à signifier que de temps en temps, ils ont des conflits aussi avec la Chine sur quelques idées. Pas autant envers les Américains, mais c'est là pareil. Puis en plus, les Russes sont avec les Chinois, ils ont des frontières communes, ce qui fait en sorte
que ça. Ils ont des chicanes armées avec la Chine.
Oui, exactement. Fait que c'est là que c'est pas juste c'est un problème qui peut dérouter, comme tu disais tantôt, Nicolas, pendant que se passe quelque chose au Moyen-Orient, mais je veux pas, ça peut se dénouer de l'autre côté.
Il ne faut pas sous-estimer le dragon chinois parce qu'il est très brillant. Et d'ailleurs, le dragon chinois contrôle une bonne partie de l'Afrique. Hein. Par ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est assez. C'est assez troublant sur le contrôle des ressources, sur le contrôle des populations, ce qu'ils sont capables de faire, et ils sont patients. Ils vont atteindre leurs objectifs, peu importe le temps que ça va prendre. Ce que nous, Occidentaux, ne sommes pas capables de réfléchir, prendre plus que 5 minutes devant nous.
Tu as dit très bien, il y a 2 matières premières en Afrique. Tu as la matière première, vraiment, là, les matériaux rares pour être capable de produire du microprocesseur, des composants électroniques. Puis tu as la deuxième ressource, qui est de la ressource humaine. Je veux dire, ils ont de la main-d'œuvre là, plus finie, et puis à ce moment-là, ils sont capables d'accomplir n'importe quoi. Puis les mines, alors qu'on était là il y a quoi? 50, 60 ans, 100 ans, ils ont pris le relais. Et c'est là qu'eux vont exploiter davantage. Et même, ils ont commencé à si mon souvenir est bon, depuis 6-7 ans, à s'inviter à faire partie de missions de l'ONU. Eux autres aussi. Et donc, ils peuvent à ce moment-là aller s'intégrer dans la gestion de conflits, gestion de problèmes. Et après ça, regardons ça, développer une économie. Ça, c'est intéressant.
Ils sont d'une subtilité fascinante pour nous. Puis on n'est pas habitué de dealer avec des. Genre, adversaires, c'est un peu fort dans ce cas-ci, mais avec des belligérants de cette nature-là, dans lesquels ils sont capables de nous sourire et de nous planter un poignard en même temps, tout en sachant qu'on n'a rien à faire. Puis on a même perdu notre portefeuille entre les deux.
Là, tu leur as demandé techniquement.
Ouais, c'est ça, tu leur as demandé leur aide pour te voler ton porte-propre.
Oui, tout à fait. En même temps, c'est pas une guerre qui est visible, c'est du contrôle. Fait que c'est clair, c'est du long terme. Puis c'est pas des guns, c'est pas une armée qui trempe dedans. Il y a une partie de ça, mais je veux dire, le gros jeu est vraiment presque politique.
Oui, tout est dans l'esprit.
Mais moi, je m'en fous de Jackie Chang, il est gentil.
Ces films sont fun.
Sur cette note d'humour, je crois que nous allons closer. On a terminé l'épisode de cette semaine, qui est quand même assez intense et assez dense en termes de contenu. Donc, messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit pour parmi d'entre vous pour le récap de 2018.
Avec grand plaisir.
Sur ce, over and out. Thank you.